J'ai demandé à la population, c'était une question essentielle pour moi, de quoi avait-elle envie après? Et la population a envie d'un pays où tout le monde a assez à manger, d'un pays où tout le monde dort sous un toit, d'un pays où tout le monde a l'accès aux écoles, garçons et filles, d'un pays où il y a la liberté totale d'expression, d'un pays où les personnes qui travaillent bénéficient des fruits de leur travail, et un pays où tout le monde peut participer à l'organisation de la nation.
On va mettre un petit peu de musique parce qu'il y a des petits ennuis techniques pour changer. Alors on écoute un peu de musique. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101,4 MHz. On nous a téléphoné tout à l'heure pour nous dire que notre micro faiblissait. Nous espérons avoir réparé ce pépin. Nous espérons que l'audition est meilleure. Nous allons continuer l'émission sur l'Afghanistan avec Anna Laila qui vient de passer 5 semaines avec la résistance afghane. Peut-être que ce serait important de parler un petit peu des liens entre la résistance et la religion, l'islam, parce que c'est une question qui nous préoccupe beaucoup en tant qu'occidentaux, en tant que femmes aussi. On a une espèce de peur et de haine, je pense, de l'islam. Et bon, peut-être pas en tant que philosophie, après tout, ça vaut bien la philosophie chrétienne, on n'a pas de on n'a pas de jalousie à avoir, mais disons de la manière dont la religion est très souvent utilisée dans les pays où elle est aux mains du pouvoir. Quels sont donc les liens entre la résistance afghane et l'islam?
Donc l'islam a été imposé par la force en Afghanistan, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Mais elle a été très mal imposée dans le sens où il y a eu résistance de la part des Afghans et des Afghanes. Et il y a un proverbe qui dit, un proverbe de la part des Iraniens, qui dit « Les Afghans, ils connaissent que la moitié du Coran ». Alors c'est sûrement vrai, parce que premièrement, le Coran est en arabe, alors la population afghane ne parle pas l'arabe. Et ensuite, parce que le Coran est un livre et que la majorité du peuple afghan ne sait pas lire, alors effectivement, l'islam est très peu implanté et compris parmi la population afghane. Ceci dit, il y a beaucoup de coutumes qui sont venues avec l'islam, qui sont restées. Par exemple, on se lave et on fait la prière 5 fois par jour. Dans un pays chaud comme l'Afghanistan, se laver est vraiment une règle essentielle de l'hygiène quotidienne. La prière est une forme de gymnastique tout à fait adaptée à cette région. Donc l'islam en Afghanistan est plus une question de coutume et de tradition que d'idéologie. Avec une idéologie précise, qu'il faut que ce soit 3 religieux qui dominent le monde, et tout et tout.
Il n'y a pas de secte fanatique comme il y a en Iran ou tout ça.
Il y a un groupe qui est basé à Peshawar, qui s'appelle Hezbi Islami de M. Gulbuddin, qui est manipulé par les soviétiques et qui prône un régime comme le régime Khomeini. Mais ce monsieur et son parti sont absolument détestés en Afghanistan. Il ferait mieux de ne pas s'y rendre d'ailleurs parce qu'il lui arriverait des ennuis à cause de leur pratique absolument scandaleuse de tuer tous les autres partis, tous les autres groupes. N'importe qui n'est pas d'accord avec l'islam fondamentaliste comme Khomeini la veut est exterminé par ce groupe. Mais bon, ça c'est un petit groupe, ça n'a rien à voir avec la majorité des gens. La majorité du peuple afghan, oui, il veut un pays, il voudra un nouveau pays où l'islam est la religion nationale dans le sens où simplement la majorité du peuple est musulman. Mais entre ça et être d'accord avec ce que fait Khomeini, ils ne le sont absolument pas. Ils sont absolument contre l'utilisation de l'islam au service de 2 ou 3 dirigeants. Et ils se rendent très bien compte que les personnes au pouvoir ont toujours utilisé l'islam. Par exemple, une des bases de l'islam et de toute autre religion, qu'elle soit catholique, protestante, toutes les autres, c'est « tu es pauvre, reste pauvre, quand tu meurs, tu iras au paradis, tout ira bien ». Et les personnes au pouvoir ont toujours utilisé cette philosophie pour garder le pouvoir. Alors les Afghans, les Afghanes ont trouvé une explication aux choses en disant « oui, Allah l'a voulu ». Essentiellement parce qu'ils ont encore peu de connaissances scientifiques pour expliquer les choses. Mais il y a tout un monde entre ce qu'ils pensent et entre les atrocités commises par le régime iranien.
Comment la population voit-elle le développement de la lutte?
Alors les Afghans et les Afghanes, ils savent que malheureusement, ils se sont rendus compte que les Soviétiques, ils ne vont pas sortir d'eux-mêmes. Il faut les aider à s'en aller, parce qu'ils sont décidés à rester pour un bon moment. Et de l'autre part, les Afghans et les Afghanes n'accepteront absolument jamais des envahisseurs, qu'ils soient soviétiques, américains, chinois, suisses, n'importe qui vient les dominer. Ils aiment la liberté, ils aiment l'indépendance, et c'est exclu d'accepter pour eux n'importe quel envahisseur. Alors ils résistent, et ils résisteront jusqu'à la mort. Ça c'est une chose qui m'a bouleversée, c'est de voir que la population entière préfère mourir que d'être esclave. Un exemple de cette détermination, par exemple, quand les soviétiques arrivent dans des villages, les femmes sont là, les hommes sont dispersés dans les montagnes avec les fusils, alors les femmes se battent avec des cailloux, des bâtons, des pierres, et au dernier moment, quand elles sentent que elles n'ont pas le rapport de force pour résister à cette attaque, elles se jettent dans le puits ou dans la rivière. Elles préfèrent mourir que d'être esclaves, que d'être soumises, que d'être violées, que d'être vraiment soumises à quelqu'un. Et il y a une phrase que l'on retrouve à la bouche d'une multitude d'Afghans et d'Afghanes, c'est « liberté ou mourir ». Et cette phrase reflète vraiment la pensée profonde et la détermination profonde des Afghans et des Afghanes.
On met un peu de musique. De partis qui sont avant tout siégés à l'extérieur de l'Afghanistan, au Pakistan, qu'on appelle les partis de Peshawar. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que sont ces organisations et qu'en pense la population?
Au début de l'intervention soviétique, il se trouvait une trentaine d'organisations et de partis afghans basés, qui avaient une base à Peshawar. Le gouvernement pakistanais, aidé par les Américains, décida de choisir 6 partis parmi tous ces partis pour représenter officiellement la résistance afghane. Alors le président du Pakistan, M. Zia, a choisi les partis qui correspondent à ses idées. Il a choisi 3 partis islamiques fondamentalistes, dont celui que j'ai mentionné précédemment qui fait des atrocités, donc qui veulent un islam à la Roumanie, parce que son propre gouvernement est basé aussi sur l'islam fondamentaliste, donc le gouvernement du Pakistan, et il a choisi 3 partis royalistes, c'est-à-dire pour le retour du roi, pour une monarchie ou une monarchie constitutionnelle, ou bien quelque chose où il y aurait une cour et des privilèges pour les aristocrates. Ceci parce que l'histoire, c'est qu'il y aura une personne qui dirigerait l'Afghanistan et que ça correspond tout à fait aux idées de Zia qui, lui, dirige le Pakistan ou essaye de diriger le Pakistan. Alors, ces 6 partis, premièrement, ils correspondent absolument pas du tout à ce qu'a envie le peuple afghan. Le peuple afghan, il a envie de liberté d'expression, il a envie de liberté d'association, il a envie d'un pays qui répondent aux besoins de la majorité de la population. Et il n'a pas du tout envie de ces partis-là. Ceci dit, ces partis étant officiellement reconnus par le Pakistan, les États-Unis et d'autres pays, ces partis reçoivent de l'aide, un peu d'aide des autres pays. Parce que l'aide internationale, d'abord, elle arrive au Pakistan, notamment l'argent et l'aide du CICR, la Croix-Rouge et du Haut Commissariat du Réfugié, qui en premier doit donner cet argent à travers le gouvernement pakistanais. Alors le gouvernement pakistanais se sert amplement de l'aide et il donne quelques miettes. Les miettes qu'il donne, il donne aux partis, à ses partis, donc ils ne représentent absolument pas le peuple afghan. Les combattants à l'intérieur, ils ont un besoin urgent de matériel. Alors, dans l'espoir d'obtenir ce matériel, ils viennent à Peshawar et ils s'adressent au parti et ils désirent obtenir un peu de l'aide qui arrive. Ils désirent obtenir l'aide. Ces partis disent « Ouais, tu veux que je te donne un fusil ? D'abord, il faudra que tu sois membre de mon parti. Et puis, deuxièmement, il faudra que tu me payes. » Alors, le peu d'armes qui arrivent dans les mains des partis afghans, ils sont revendus à la résistance, aux gens qui combattent effectivement à l'intérieur du pays. Des dirigeants de ces partis s'empochent les sous et vivent grandiosement dans des grandes maisons, des villas et tutti frutti. Alors, une demande que m'ont fait toutes les personnes que j'ai rencontrées en Afghanistan, c'est raconte, dis à tes amis, au peuple de Suisse et d'Europe, raconte ce qui se passe avec ces 6 partis et s'il vous plaît, si vous voulez envoyer de l'aide, envoyez-la directement en Afghanistan, à la résistance, aux Afghans et aux Afghanes qui se battent directement contre les envahisseurs soviétiques.
Bien. On met un petit peu de musique et puis après on parle un peu des femmes afghanes.
ماشه که از کشا کشه دوران نمی کنه موجه مکار خیج به دریا سپره ای تو ده ناماور افغان نیراکه ای تو ده ناماور افغان نیراکه از حمله اردوی شریران نیراکه از حمله اردوی شریران نهراته از حمله اردوی شریران نهراته
Que la musique que nous écoutons ce soir, c'est une cassette enregistrée clandestinement à Kaboul. Voilà, petit ennui technique réparé. Maintenant, nous allons parler un peu des femmes afghanes. Parce que je vous rappelle que c'est Radio Pleine Lune, la radio des femmes. Et nous, ça nous importe énormément de savoir ce que font les femmes sur la terre entière, comment elles s'organisent, quelles sont leurs conditions et aussi et surtout comment elles luttent, comment elles résistent, comment elles attaquent. Anna, toi qui viens, je le rappelle à tous nos chers auditeurs et auditrices de passer quelques semaines en Afghanistan. Tu nous parles un petit peu de la condition des femmes afghanes et après de leur participation à la lutte.
Les femmes afghanes vivent dans des conditions très difficiles. Déjà, avant l'invasion, elles avaient entre 10 et 15 grossesses, ce qui rend la condition physique très difficile. Et en plus, la moitié de leurs enfants mouraient en bas âge de malnutrition, de maladie. Le côté grossesse et accouchement était absolument désastreux. Beaucoup de femmes mouraient en couche aussi, et des infections diverses à cause des conditions difficiles. Depuis la guerre, cette situation s'est empirée. Parce que non seulement elles continuent à avoir 10 ou 15 grossesses, et la moitié des enfants meurent de malnutrition, mais l'autre moitié des enfants meurent des bombardements, des attaques chimiques, du napalm et des mines antipersonnelles. Alors le fruit de leur travail est très peu gratifiant. Parlant travail, Déjà avant l'invasion, elles travaillaient dur dans les champs. Elles sont les pieds nus dans la terre, dans les rizières. Elles attrapaient la malaria, la tuberculose, le rhumatisme. La condition des paysannes partout dans le monde et en Afghanistan était très difficile. Alors maintenant, non seulement la situation est encore difficile par rapport à l'agriculture, elles doivent utiliser les mains souvent pour travailler, mais en plus, les bombardements, les attaques chimiques et le napalm font que leurs efforts sont absolument détruits en 5 minutes par des hélicoptères et des MiG. La population, dans certaines régions d'Afghanistan, notamment le Hazarajat, sont en train de commencer des périodes de famine. Et puis la question de la nutrition est absolument essentielle pour la survie de la résistance afghane. Bon, déjà avant, du point de vue ménage, enfants, cuisine, tout ça, elle s'occupait des hommes de la famille, de la tribu. À deux ou trois, elle s'occupait de 5 ou 6 hommes. Et puis maintenant, à cause de l'intervention soviétique et de la résistance qui a dû s'organiser, ces mêmes 2 ou 3 femmes nourrissent et s'occupent de 20, 40, 50, 80, 100 combattants. Donc, en les nourrissant, en leur apportant de l'eau, en faisant toutes ces choses-là. Alors, la guerre a vraiment empiré objectivement et violemment la situation des femmes. Bon, face à ça, elles s'organisent. Bien sûr, pour nourrir les combattants, et bien sûr, elles résistent aussi, elles sont dans la lutte armée, dans les campagnes. Mais dans les campagnes, il s'agit de lutte armée sans armes, c'est-à-dire avec les armes naturelles, qui sont les mains, les bras, les bâtons, les pierres et les couteaux de cuisine. Alors, la lutte armée existe dans les campagnes avec les moyens absolument rudimentaires et déproportionnés par rapport aux attaques gigantesques des soviétiques. Et elles montrent dans leur résistance dans les campagnes un courage absolument extraordinaire qui m'a aussi bouleversée parmi les autres choses que j'ai vues en Afghanistan. Dans les villes, les femmes sont très impliquées dans la lutte armée avec les fusils et les armes. Car le gouvernement soviétique a été obligé d'imposer l'armée, le service militaire obligatoire pour tous les hommes entre 16 et 40 ans. Car il n'y avait plus d'hommes d'accord d'être volontaire dans l'armée afghane. Alors tout homme entre 16 et 40 ans ne peut pas circuler librement à Kaboul. Ou bien il est pris dans l'armée, ou bien il se trouve dans les prisons, par exemple la prison de Policharki à Kaboul, ou bien il vit en clandestinité ou a dû fuir de Kaboul. Donc les femmes peuvent se mouvoir, je ne vais pas dire librement, parce que ce serait faux, mais elles peuvent se mouvoir relativement facilement dans les villes. Alors, à cause de ces situations objectives, elles sont à l'avant-garde de la lutte. Depuis l'intervention soviétique le 27 décembre 1979, elles ont organisé d'énormes manifestations contre les envahisseurs. Lors de ces manifestations, entre autres, il y a l'histoire d'une jeune Afghane, Nahid, qui est connue dans tout le pays, dans tout l'Afghanistan. Nahid était une organisatrice de ces manifestations. Et lors d'une de celles-ci, elle se trouvait au premier rang et avançait en avant de la manifestation. Les troupes soviétiques ont barré le chemin pour barrer le chemin à la manifestation. Nahid a crié des slogans « Russes, sortez de mon pays !»« Russes, sortez de notre pays !»« Vive l'Afghanistan libre et indépendant !» Et l'armée continuait à menacer la manifestation. À ce moment-là, elle déchira sa blouse et elle cria « Soldats, tirez si vous osez. Elle tomba sous les balles. Le reste des manifestantes ont repris en chœur tous les slogans qu'elle avait criés et continua la marche et la lutte contre l'envahisseur soviétique. L'histoire de Nahid est connue dans tout l'Afghanistan, même parmi les coins les plus reculés, les endroits où j'étais, où peu de voyageurs étaient venus depuis des années, les gens avaient entendu parler du courage de Nahid. Alors les femmes, elles participent à la lutte armée par la guérilla. Elles sont dans les groupes de guérilla à Kaboul. Il y a des femmes qui réfléchissent aux plans, qui préparent les plans, qui repèrent les endroits stratégiques où les soviétiques sont implantés, par exemple les postes, les concentrations de tanks, les bases aériennes, la radio, toutes ces choses-là. Elles font des plans. Et une fois que ces plans sont faits, elles proposent des moyens de faire l'action. Et puis, souvent, elles font l'action elles-mêmes ou elles donnent la possibilité à des camarades de les mener. Il y a aussi l'histoire d'une femme, c'est l'histoire parmi beaucoup d'autres histoires. Il y avait un groupe qui devait éliminer un collaborateur avec le régime soviétique parce que c'était une question de vie et de mort pour beaucoup de personnes. Alors un petit groupe est monté dans une jeep. Ils étaient 3 hommes et une femme. Et la femme devait assurer l'arrière de la jeep avec sa mitrailleuse, sa Kalachnikov. Alors ils suivent la voiture de la personne à descendre. Et tout d'un coup, une voiture de l'armée soviétique arrive. La fille casse la vitre et tire sur la voiture soviétique. La voiture soviétique est mise hors de service et les résistants, les guerrieros, se sont enfuis et ont eu la vie sauve. Et une personne, un commandant dans la guérilla, parmi ce groupe, racontait que cette femme a sauvé leur vie et qu'ils pensaient qu'elle avait tiré qu'une fois. Et en fait, elle avait déchargé tout le chargeur en quelques secondes sur la voiture soviétique. Et cette histoire est un exemple parmi d'autres du courage et de l'efficacité des femmes afghanes dans la guérilla à Kaboul.
As-tu pu rencontrer des femmes, tu n'étais pas dans les villes, donc pour les raisons que tu as données tout à l'heure, mais à la campagne, est-ce que tu as pu parler avec des femmes, bon, malgré l'obstacle de la langue et tout ça, et que t'ont-elles dit ces femmes ?
Alors, une de mes envies, c'était de rencontrer les Afghanes, et ça a été tout à fait possible, entre autres grâce au fait que je suis moi-même une femme et que c'est difficile, c'est un peu plus difficile pour les hommes, pour les voyageurs, pour les journalistes, pour les personnes, les hommes qui aimeraient rencontrer les femmes en Afghanistan. Actuellement, c'est un peu difficile. Pour les femmes, la porte est ouverte. Alors, concernant la langue, j'ai appris une cinquantaine de mots de farsi et quelques mots de pashtou, donc les langues parlées dans ces régions. Et c'est tout à fait possible d'avoir une discussion profonde et intéressante avec les femmes afghanes, avec un vocabulaire simple, car elles parlent en termes très concrets et nous nous sommes très bien comprises dans tous les domaines.
De quoi avez-vous parlé ? C'est pas discret.
Alors nous avons parlé des soviétiques. Elles ont toutes exprimé la détermination farouche de sortir l'envahisseur soviétique. Et elles ont posé des questions. La première question qu'elles ont posée, c'était souvent, la plupart du temps, c'était: écoute, est-ce que tu peux me dire comment comment je peux arrêter de faire des enfants? Parce que quand on a 15 grossesses, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Elles sont vraiment limitées par leur état physique. Alors c'était une question à laquelle j'avais de la peine à répondre parce que j'avais pas de moyens et je n'ai pas assez d'informations et d'éducation sur ce sujet. Mais s'il y a des femmes qui s'intéressent à obtenir des informations sur la contraception possible pour répondre aux besoins des Afghanes, elles peuvent me contacter. Il y a un très grand besoin. Le deuxième point qu'elle posait, c'était l'éducation des filles. Elle disait, c'est horrible, quoi. Maintenant, déjà avant, il n'y avait pas d'école, mais alors maintenant, il n'y a absolument pas d'école. Et puis, pour que notre condition change, on a besoin d'école, on a besoin d'apprendre à lire, à écrire, on a besoin de connaissances, parce qu'autrement, ce sera très difficile d'avoir des droits égaux dans un futur pays. Et ce sera aussi difficile pour organiser le pays. Comment organiser un pays? Comment exploiter les richesses au profit du peuple s'il manque des personnes qui peuvent simplement organiser les choses, coordonner les choses? Alors elles se rendent compte de l'importance de l'éducation et elles ont fait une demande très précise d'une école pour filles et garçons dans leur région, dans leur vallée. Et la troisième question qu'elles ont abordée, bien sûr, c'était la question des armes. Pour elles, s'il n'y a pas de soutien, de solidarité internationale, ce sera extrêmement difficile et ça a plutôt l'air d'aller dans le sens d'un génocide. Il y a un génocide qui se prépare et qui a déjà commencé. Il y a déjà 1 million de morts et de mortes et de blessés en Afghanistan. Et s'il n'y a pas de solidarité internationale, ça va s'empirer.
Ceci, je pense, nous amène à la question du soutien à la résistance afghane. Quels sont les besoins de la résistance et quelles sont les demandes aussi auxquelles nous pourrions répondre ou auxquelles les personnes qui nous écoutent pourraient chercher à répondre?
Le besoin pour la résistance peut être divisé en deux catégories. La première, c'est le soutien moral. Le peuple afghan, pour le moment, est très isolé. Il n'y a aucun gouvernement, aucun pays, très peu de comités de soutien qui, ne serait-ce que verbalement ou par écrit, non seulement dénoncent l'intervention soviétique, mais soutiennent la résistance du peuple afghan. Alors il y a déjà un soutien moral que nous pouvons apporter, mais ce qui est encore plus important et ce qui est absolument essentiel, c'est de pouvoir empêcher les massacres qui font rage et qui continuent par voie aérienne. Je veux dire, les villages, des villages entiers sont rasés en un clin d'œil par des hélicoptères et des MiG qui survolent la région et qui lâchent toutes leurs horreurs sur la population. Alors le besoin actuel le plus pressant pour la résistance afghane, ce sont des armes anti-aériennes. Ce sont des armes qui peuvent descendre les MiG et les hélicoptères qui massacrent la population. Alors bon, pour obtenir des armes anti-aériennes, c'est assez compliqué, mais il y a la possibilité à Genève de verser de l'argent pour les personnes qui désireraient soutenir activement la résistance afghane. Il est possible de faire parvenir des fonds, même minimes, ce que vous avez envie de contribuer, sur un compte bancaire, un compte spécial réservé à cet effet. Le numéro du compte, si vous désirez, si vous avez le temps d'aller chercher un crayon et un petit bout de papier, le numéro du compte bancaire réservé pour obtenir des armes anti-aériennes pour la résistance afghane et sous le nom de Francesca, compte numéro 626 087 MAV double à la banque UBS.
Il faut peut-être le répéter.
Oui. Je le répéterai et je voudrais préciser que s'il y a des sous que des personnes désiraient envoyer spécifiquement pour armer les femmes, pour armer les Afghanes, il suffit de mentionner le mot femme avec l'envoi de fonds. Alors je répète le numéro bancaire du compte bancaire réservé pour récolter des armes anti-aériennes essentiellement pour la résistance afghane. Il s'agit du numéro sous le nom de Francesca, le numéro 626 087 MAV double à l'UBS. Un autre moyen de soutenir la résistance afghane, c'est de s'informer, c'est de participer aux actions proposées par le comité genevois de soutien au peuple afghan. Ce comité organise, à l'occasion de la commémoration de l'invasion soviétique en Afghanistan il y a 3 ans, ce comité organise 8 heures de solidarité avec le peuple afghan qui se tiendront au centre paroissial de la Jonction, 24 rue Gourgas, le samedi 4 décembre 1982. Je répète, 8 heures de solidarité avec le peuple afghan, samedi 4 décembre 1982, au centre paroissial de la Jonction. Lors de cette occasion, vous pouvez voir dès 4 heures une exposition photo de Guy, un ami qui a été en Afghanistan et qui a fait une exposition photo. Il y aura des diapositives qui ont été récoltées au cours de ces dernières années sur l'Afghanistan. À 5 heures, il y aura la projection du film que j'ai réalisé en Afghanistan. C'est un film Super 8 sonore couleur avec comme contenu donc des images de la résistance, de villages qui ont été complètement bombardés, avec la situation des femmes, avec la situation médicale. On voit un membre de l'association des médecins afghans qui distribue des médicaments et qui donne des soins à la population. Il y a un enfant qui apprend à tirer, car malheureusement les enfants, comme ils sont aussi victimes de la guerre, ils doivent aussi s'organiser pour apprendre à se défendre. Il y a l'interview du commandant de la région et il y a aussi un entraînement militaire. On voit un peu comment la résistance s'entraîne militairement. Ce film est à 5 heures. Ensuite, à 18h30, dès 18h30, il y aura un repas afghan préparé par un groupe de réfugiés et de réfugiés afghans en Suisse. Et à 20h, le moment central de la soirée sera une conférence débat avec la participation de Salim, un commandant de la résistance et de la guérilla à Kaboul. Et il y aura la présence de Hazan, un commandant de la province du Paktia. Donc le moment central de cette journée du samedi 4 décembre sera 20h, conférence débat. Nous vous invitons, le comité invite cordialement toutes les personnes qui désiraient venir à ce moment, de venir et participer à ces 8 heures de solidarité avec le peuple afghan. Si vous désirez avoir des informations sur l'Afghanistan en général, si vous désirez participer aux réunions du comité, de quelque manière que ce soit, vous pouvez le faire en contactant le comité genevois de soutien au peuple afghan, case postale 95 1211 Genève 3. Je répète, pour des informations, pour la participation aux actions concernant le soutien à la résistance afghane, vous pouvez contacter le comité genevois de soutien au peuple afghan, case postale 95 1211 Genève. Et bien sûr, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter par le comité en mentionnant mon nom, Anna Laila. Je suis disponible pour toutes les informations que vous désirez avoir sur la résistance.
Je te remercie, Anna. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses. On avait prévu d'en aborder encore tout un tas. Il y avait beaucoup de points dont on n'a pas pu parler ce soir. Mais j'espère que ce ne sera pas la seule émission qu'il y aura à Radio Zone sur l'Afghanistan, sur la résistance du peuple afghan. J'espère que le comité ou d'autres personnes vont pouvoir peut-être faire une émission régulière qui ne serait pas forcément dans le cadre de Radio Pleine Lune. Mais de toute façon, j'espère qu'Anna, tu reviendras quand même souvent à la Pleine Lune nous raconter et nous parler encore de la lutte des femmes, parce que je pense que c'est vraiment très très important ce qui se passe là-bas et ce qui se passe partout dans le monde. Que partout où il y a une lutte de résistance, il y a cette composante des femmes qui se manifestent. On n'a pas eu le temps de parler ce soir de l'organisation des femmes afghanes, qui est tout à fait petite et embryonnaire, mais disons qui existe. Il n'y a pas de lutte de libération maintenant dans le monde sans qu'il y ait, une mode d'expression autonome des femmes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Radio Pleine Lune termine ses émissions. Nous vous disons bonsoir, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est quoi déjà l'émission ?
C'est ainsi que s'achève l'émission sur l'Afghanistan qui vous était diffusée il y a 2 semaines. Je vous rappelle par ailleurs que dès ce soir et jusqu'à samedi, le comité contre le viol organise 4 jours d'information. Cette émission, maintenant telle qu'elle est, va se répéter toute la journée de mercredi, jusque vers 18h30. Elle va se répéter dans quelques minutes. À tout de suite. C'était Radio Pleine Lune, 101.4 MHz. Vous êtes sur Radio Zone. Aujourd'hui, c'est le jour de Radio Pleine Lune.